Avant Jacques Brel, nous avons entendu un extrait de Objectif Lune, qui est quand même la preuve qu'on peut faire avec l'œuvre d'Hergé le meilleur comme le pire. Je crois que malheureusement, lorsqu'on sort des planches d'Hergé, c'est en général le pire. Alors, nous en arrivons à Tournesol. Tournesol, arrivé en 1945, de façon beaucoup moins tonitruante que Haddock. Je crois qu'on peut dire qu'il s'est véritablement imposé dans la série. Hein. Il y a eu beaucoup de problèmes pour s'y imposer au départ.
Oui, au départ, il y a eu avant Tournesol des succès d'années de Tournesol. Hein. Comme on disait tout à l'heure, le professeur Alambic, bon, c'est un peu. Tournesol est quand même au départ un personnage relativement stéréotypé.
C'est un archétype, ah, certainement. Oui.
Le savant, non pas forcément fou, comme on en trouve dans Joe et Zette, par exemple, mais le savant lunatique, quoi, disons.
Ah oui, c'est même l'antidote du savant fou, parce qu'entre Septimus et Tournesol, il y a vraiment une distance infinie, je crois. Mmh. C'est les deux versions, finalement, du possible personnage de savant dans une histoire. Hein. C'est-à-dire, bon, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire avec un savant? Bon, au départ, c'était pas intéressant, parce qu'il est un âge sérieux et studieux, donc ça n'a aucun intérêt narratif. Alors, on peut où partir de l'idée un peu poujadiste, enfin que trop de science monte au cerveau et que si on travaille trop, on va finir par devenir complètement dingo. Bon, ça, c'est la version la plus traditionnelle, c'est la version du roman populaire. Ou bien, on peut développer l'autre filon, qui est effectivement la version donc du savant un peu lunaire, avec ce très joli nom, Tournesol, qui fait penser au soleil, mais en même temps, bon, à tout ce qui peut s'y rattacher. Et l'idée de donner un nom de fleur est très belle. Et alors, on va développer un aspect bizarre du personnage dans toutes les marges de son travail. C'est-à-dire que ça ne se porte jamais sur son travail. Tournesol, en tant que savant, est un savant absolument admirable. Enfin, là, Michel Serres, dans son article sur Tintin et les Picaros, avait montré que la carrière de Tournesol était certainement la plus éblouissante, oui, de toute la science contemporaine.
Les références de l'article, au cas où les éditeurs seraient intéressés.
Mais c'est un article qui était paru dans la revue très sérieuse, la revue Critique, numéro, je crois, 358, en avril 1977, quelque chose comme ça. Enfin, un article qui porte essentiellement donc sur les Picaros, mais qui contient toute une petite digression très belle sur le personnage de Tournesol et dans laquelle Michel Serres retrace la carrière de ce personnage qui était d'abord petit inventeur pour Concours l'épine et qui devient physicien
Mais
nucléaire.
Qui n'abandonne jamais quand même ses velléités de petit inventeur, notamment quand il s'intéresse aux patins à roulettes par exemple. Bon, il y a toujours ce mélange chez Tournesol qui est capable de s'intéresser à des grands projets comme d'aller sur la Lune et à côté de ça qui met aussi son temps et son savoir à la disposition de petits problèmes comme celui-là.
Oui, mais en fait, on peut remarquer que la carrière de Tournesol obéit à un double mouvement. Dans un premier temps, son champ d'activité s'étend, hein, c'est qu'il part de des petites choses. Vraiment, on sent que son passé, c'est vraiment le petit bricoleur. Puis, il y a déjà ce petit sous-marin du trésor de Rackham le Rouge, c'est déjà pas si mal, après tout. Bon. Il y a la Lune, il y a ensuite une espèce de point culminant, d'une certaine façon, qui serait atteint aussi avec l'arme dans l'affaire Tournesol. Et alors, et c'est là que l'analyse de Michel Serres me paraît subtile et judicieuse, la carrière décroît à partir du moment où il a atteint cela, c'est-à-dire comme si Tournesol reflétait l'angoisse du savant devant les possibilités et qui revenait finalement à son point de départ, donc avec les patins à roulettes autoguidés,
ou les pilules pour dégoûter de l'alcool.
Les pilules pour dégoûter de l'alcool. Encore pire, ou encore mieux, simplement, les roses dans les bijoux d'Acastafiore. C'est-à-dire une manière de revenir à ce qu'il va y avoir de plus minimal. Alors vraiment, bon, si on veut parler de philosophie dans Tintin, parlons de Tournesol, parce que là, c'est une espèce de retour à une espèce de fausse puérilité, de fausse simplicité, de renoncer à une espèce de grandeur du projet.
Alors, en ce qui concerne le côté comique du personnage, bon, il est bien évident que l'un des principaux ressorts comiques, c'est la surdité de Tournesol.
Ce qui est beau double avec le langage fleuri de Haddock, enfin un personnage qui parle tout le temps et un autre qui n'entend rien, on imagine la confrontation entre les deux.
C'est peut-être aussi pour ça qu'il a réussi à tomber amoureux de la Castafiore, il n'entend pas lui au moins.
Il y a certainement de ça.
Et il trouve ses portraits d'une ressemblance très étonnante, donc il élimine absolument la dimension sonore, oui, du personnage.
Et alors ce qui est curieux, c'est que Tournesol, bien souvent, tout en ne comprenant pas ce qui se dit, est le seul qui, au fond, comprend vraiment à un niveau supérieur de compréhension ce qui se passe, hein, quel est le véritable enjeu de l'action. Comme tu l'as d'ailleurs très bien montré au sujet de la finale de l'épisode chez les Incas, du Temple du Soleil.
C'est ça, où il parle du cinéma. C'est-à-dire qu'apparemment, il ne comprend rien et il dit tout le temps « Ah oui, quel film, c'est extraordinaire, et ses costumes, etc. » Bon, ce qui est superbe par rapport Enfin bon, là, il faudrait faire une analyse de tout le double album, mais par rapport à tout le jeu sur l'illusion qu'il y a là-dedans. Et c'est toujours très passionnant, d'ailleurs, de voir ce que Tournesol n'entend pas et comment il n'entend pas. C'est que généralement, Subtilité d'énergie, on arrive à recomposer ce qu'il a cru entendre. Hein, généralement, c'est un mot dont il n'a entendu que la dernière syllabe. Et souvent, on peut reconstituer les énoncés qu'il perçoit, qui sont souvent très, très révélateurs par rapport au reste de l'action. Ce n'est jamais... C'est jamais n'importe quoi. Enfin, je veux dire, ces réponses sont ou une espèce on pourrait dire de vérité de deuxième degré, ou alors une manière de ne pas vouloir comprendre. Enfin, volontairement, je ne veux pas en entendre parler.
Oui, et alors tout à l'heure, je disais que chez Hergé, il y avait toute une part de comique visuelle qui était héritée directement des films burlesques. Évidemment, avec Tournesol, c'est un comique qui est essentiellement verbal, puisqu'il est basé sur le quiproquo. Et là, on peut... rapidement remarquer que le personnage du sourd ou du malentendant a fait les beaux jours du vaudeville au siècle passé, et notamment enfin chez Feydeau, chez Labiche, on trouve beaucoup de personnages de sourds, de malentendants qui sont des ressorts comiques qui ont fait leur preuve sur les scènes, parce qu'évidemment il s'agit d'un comique essentiellement verbal, ce qui prouve encore une fois qu'Hergé vraiment joue sur tous les registres du comique qui sont à sa disposition.
D'ailleurs, il me semble qu'il y a une allusion directe à cela avec Les Bijoux de la Castafiore, où le vaudeville fait son retour en force, pour ne serait-ce que ce ciel mes bijoux qui semble évoquer un ciel mon mari très traditionnel, et où on a l'effet du mariage, du faux mariage annoncé que Tournesol, qu'il a finalement lui-même annoncé par ses réponses décalées, découvre dans le journal en se disant « Je me demande par qui ces journalistes ont appris des choses que tout le monde me cache à moi. Bon, » ce qui est le comble du malentendu et du quiproquo, enfin de finir par s'étonner de ce qu'on a soi-même révélé.
Justement, Les Bijoux de la Castafiore, c'est le retour en force de cette diva qui était apparue au départ par intermittence dans Les Sept Autres de Caire d'abord, puis par la suite dans L'Affaire Tournesol, je crois, qui avait un rôle de second plan, et puis qui tout à coup se révèle comme l'intrusion totale dans le monde de Tintin et Haddock. Alors je sais que c'est votre album préféré à tous deux, et je vous laisse la présentation du personnage. Le silence.
Du personnage ou de l'album? Parce que je crois qu'il faut vraiment distinguer les deux. Pour moi, il n'est pas évident que la Castafiore soit vraiment la vedette de l'album Les Bijoux de la Castafiore. Je ne sais pas ce que
c'est. C'est Haddock, c'est un album basé sur Haddock.
Bon, c'est Haddock, certainement. Et puis, c'est au fond un retour sur tout ce qui a précédé. C'est-à-dire que tous les personnages sont en quelque sorte poussés à leur paroxysme. Ils tournent à un rendement supérieur de celui qu'ils avaient dans les albums précédents.
Les Bijoux de la Castafiore, c'est une manière de rentabiliser toutes les possibilités des personnages. C'est-à-dire que quand il y a trop d'action, on ne peut les donner qu'au compte-gouttes. Et dans Les Bijoux de la Castafiore, on va faire un album où tous les personnages vont pouvoir vraiment y aller et développer toutes les possibilités qu'ils contiennent. Alors, la Castafiore, en tant que personnage maintenant, joue un rôle de catalyseur. Et c'est assez drôle, enfin, je veux dire, parce que c'est l'intrusion de la féminité, qui va devenir l'élément révélateur de l'album. Évidemment, quelle féminité, enfin, je veux dire. C'est très drôle parce qu'à la fois, elle fonctionne comme image caricaturale de la féminité, mais en même temps, elle remplit pleinement ce rôle dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il faut bien voir ce côté-là. C'est une caricature, mais c'est pas seulement ça. Enfin, je veux dire, parce que c'est aussi l'album le plus sentimental de la série, d'une certaine façon.
Oui, au Tibet, alors. Tintin au Tibet.
Oui. Oui,
mais oui, le côté féminin est important parce que si on l'enlève, ce côté féminin, on aurait très bien pu remplacer la Castafiore par Séraphin Lampion, par exemple, comme moteur d'un album comme Les Bijoux. C'est-à-dire que Hergé, maintenant ses personnages à domicile, est obligé de faire venir l'élément d'aventure, disons, même si elle est fausse en l'occurrence, de l'extérieur. Et le personnage de la Castafiore est vecteur de catastrophe, donc il sème le désordre partout où il passe, donc même à Moulinsart, qui est le symbole de la quiétude, de la vie quotidienne, la catastrophe va apporter la Castafiore, pardon, va apporter la catastrophe. Mais Séraphin Lampion aurait pu tout aussi bien jouer ce rôle-là, et justement la dimension supplémentaire, c'est le côté féminité dont tu parlais.
C'est ça, c'est-à-dire, c'est pas, pour parler platement, c'est pas l'histoire de l'emmerdeur. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est quelqu'un qui a l'air d'être l'emmerdeur et dont on va découvrir dans le courant de l'histoire que les rapports que la Castafiore entretient avec tous les autres personnages sont très compliqués. Et que finalement, Haddock lui crie sur les toits qu'il voudrait la mettre dehors, mais regardons-y bien, écoutons bien ce qu'il dit, c'est pas si évident. Quant aux autres personnages, c'est loin d'être sûr qu'ils aient envie de s'en débarrasser. Bon, surtout pour Tournesol qui dit, et surtout revenez vite, etc. Enfin bon, il y a tous ces jeux. Bon, il y a Nestor qui est tout illuminé au moment où la Castafiore, à la fin de l'album, lui donne sa photo dédiée, enfin lui promet d'envoyer sa photo dédicacée. C'est même pas la photo, c'est simplement une promesse. Bon, et on sent bien que malgré tout ce qui se passe, et que malgré le côté absolument effroyable du comportement du personnage, eh bien à la fin, il reste une capacité de séduction assez grande, et qu'elle peut très bien faire un comeback à Moulinsart sans provoquer une fuite généralisée.
Alors, rapidement, je voudrais dire un petit mot, simplement pour signaler qu'on a montré qu'au fond, le monde d'Hergé s'était complexifié, puisque de Tintin tout seul, on est arrivé à une galerie de personnages, tous très importants dans la série. Et alors, ce qui est amusant, c'est que ces personnages ont à leur tour leurs satellites. Par exemple, la Castafiore a Irma et Wagner, son accompagnateur, qui sont eux-mêmes des personnages
qui
relativement
riches,
qui m'accompagnent naturellement, oui. Ce qui est d'ailleurs très drôle, c'est que ce personnage qui s'appelle Wagner adoc le trait d'une espèce de Beethoven. Bon. Et donc, on pourrait imaginer que si Hergé avait le loisir de faire 10 ou 20 albums de plus, eh bien, ce monde ne cesserait de se complexifier parce que chaque personnage amène ses propres satellites qui sont amenés à acquérir une certaine autonomie. Wagner a déjà quand même une très grande autonomie dans les bijoux. Et c'est très, très intéressant comme mouvement d'expansion continue de la série.
Bien, pour illustrer tout ça, je vous propose un extrait justement des bijoux de la Castafiore, le début avec l'entrée de la diva.
Messieurs, on fait une bonne promenade.
Excellent, Nestor, excellent.
Nous avons rencontré une petite bohémienne qui s'était égarée dans les bois. Nous l'avons ramenée à ses parents. Leur tribu campe au-dessus de la décharge, vous savez.
Mais parfaitement, monsieur Tintin.
C'est d'ailleurs un endroit très malsain. Et j'ai invité ces pauvres gens, leurs chevaux et leurs singes savants, à camper dans le pré qui longe la rivière, derrière le château.
Mais monsieur Romanichel,
ils
monsieur...
seront mieux qu'au milieu des ordures.
Oh.
C'est aussi votre avis, n'est-ce pas, Nestor?
Mais monsieur. Mais certainement, monsieur. Et voilà notre cher professeur.
Bonjour, c'est terrible.
Oh, Trifon, rien de cassé?
Si, un morceau de la marche. Oh. Allez, regardez.
Oh, cette satanée marche pas encore réparée. Hein.
J'ai téléphoné à plusieurs reprises à monsieur Boulu de Marbrier. Monsieur, chaque fois il promet, nous l'attendons toujours.
Bon, eh bien, je lui dirai deux mots moi-même.
Ah, le whisky, c'est par là, monsieur.
Oui, ah bah cette balade m'a donné une de ses soifs.
Ah, j'oubliais, il y a deux lettres pour vous, monsieur Tintin.
Parfait, merci Nestor, merci.
Alors, Tintin, de bonnes nouvelles?
Cette lettre est de Chang. Il est à Londres, tout va bien, et il vous adresse son souvenir.
Ah, quel charmant garçon.
Ah, celle-ci est signée Bianca Castafiore.
Ce cher rossignol.
Elle nous annonce son arrivée ici pour demain.
La Castafiore, ici, demain?
Ah oui, capitaine.
Oh, mais tenez, Nestor!
Oui, monsieur.
Faites mes bagages, il faut que je sois parti dans une heure.
Bien, monsieur.
Mais capitaine, vous n'allez pas...
Inutile d'insister, je lève l'ancre.
Un télégramme pour monsieur Tintin.
Vous permettez?
Bien sûr, bien sûr. Alors?
C'est encore de Bianca.
Non, et que dit-elle?
Mille excuses, stop, ne pourrait pas venir...
Magnifique, Nestor!
Voilà, monsieur.
Annulez le départ, plus de bagages, je reste ici.
Bien, monsieur.
Le capitaine, je n'ai pas tout lu.
Quoi encore?
Écoutez, ne pourrait pas venir le 17, stop, arriverait le 16, amitié à tous deux.
Quoi? Le 16? Mais Tintin, c'est aujourd'hui.
Eh oui.
Nestor, les bagages, vite, en bas de combat. Tout le monde sur le pont, sauf qui veut. Mais les femmes et les enfants d'abord.
Mais où voulez-vous aller, capitaine?
Je ne sais pas, n'importe où. À Milan, par exemple. Je ne suis jamais allé dans ma crainte de rencontrer ce cyclone. Oh, mille millions de mille, c'est mort.
Capitaine!
Oh, c'est encore cette marche tonnerre de Brest. Oh, si je tenais ce cornichon de Marbrier.
Attendez, capitaine, là, doucement, doucement.
Oui!
Là.
Oh, ma cheville. Impossible de poser le pied par terre.
Ah oui, c'est certainement une entorse.
Oh, alors adieu l'Italie. Oh, là, 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 là. Me voilà bien avec un pied dans le plâtre. Adoc, le colosse au pied d'argile. Oh!
Coucou!
Hein, quoi? Pensez-vous?
Madame.
Oh, bonjour, capitaine Capong. Je suis ravie de vous revoir. Moi, c'est pas un cement dans les pieds.
Une entorse, madame, qui m'immobilise provisoirement.
Oh, comme c'est ennuyeux, juste quand nous arrivons chez vous.
Comment, nous? Vous êtes donc plusieurs?
Ah, quatre, capitaine Maston, toujours.
Ah?
Ah, ben d'abord, un piano à quai.
Ah, piano.
Puis Irma, mon habilleuse. Disait bonjour, Irma.
Capitaine, monsieur.
Et Igor Wagner, mon accompagnateur, qui m'accompagne toujours, forcément, forcément.
Messieurs. Professeur Igor Wagner, de l'Opéra de Batum.
C'est ça.
Allons, allons, capitaine, voilà. Madame, permettez-moi de vous présenter notre vieil ami, le professeur Tournesol.
Pardon?
Tournesol, oh, je suis ravie de rencontrer les célèbres sportifs qui a réussi de si magnifiques ascensions en ballon.
J'adore le melon.
C'est ça, oui.
Mais permettez-moi de présenter mes hommages à la grande artiste qui, à l'aide de ses pinceaux...
Moi, qu'est-ce qu'il raconte, celui-là?
...a su recréer la vie dans ses moindres détails. Mmh. Et en
couleur... Je vous remercie. Irma, 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 les cadeaux du capitaine O'Clock.
Tout de suite, madame.
Bienvenue.
Oh! Oh!
Oh, retournez-vous, capitaine Murdoch, allez.
Hein? Donc, un perroquet.
Mais n'est-ce pas qu'il est beau, amour? Et il s'appelle Coco, c'est pour vous. Je vous l'offre.
Hein? Vraiment?
C'est...
Rien ne pouvait me faire plus de plaisir.
Oh, j'en étais sûr. Et pour vous, certaines têtes, vous disent que tenez.
Oh, madame, vraiment...
Ah, si, alors là, je suis sûre que vous aimez. Ça, c'est... Ah, je suis sûre, ça.
Ah oui, l'air des bijoux. Quelle merveilleuse idée.
Ciel! Ah, mes bijoux!
Madame, c'est moi qui les ai dans la mallette.
C'est vrai, mais je suis étourdie, je suis complètement folle. Ah, encore un mot, capitaine Amok. Je suis ici incognito, hein. Alors, pas de reporter, pas de journaliste, je compte sur vous.
D'accord.
J'ai compris ça.
Monsieur? Monsieur, ce sont les bohémiens de monsieur, avec leurs singes.
Et si vous le permettez, capitaine, j'irai leur montrer l'endroit. Nestor a tant à faire dans la maison.
Merci, monsieur Tintin. Ah, mon Dieu, des bohémiens chez nous, jamais nous n'avons vu ça. Si le père...
Remettez-vous, monsieur... Nestor, et conduisez madame à la chambre d'amis.
Bien, monsieur. Si madame veut me suivre.
Moi, oui, je suis. Allez, je suis.
Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent maintenant que tu es parti? Ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi? Qui bat trop fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, mais la terre, sans toi, c'est petit. Mes amis, soyez gentils. Vous savez bien que l'on n'y peut rien. Même Paris crève d'ennui. Toutes ces rues me tuent. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. je vais brûler des nuits entières. Au matin, je te haïrai. Et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Pas une fleur et pas de pleurs au moment de l'adieu. Je n'ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai vraiment plus rien.
Campus FM 100.6, s'il te plaît, dessine-moi un mouton, la deuxième partie d'un hommage à Hergé, consacré cette fois au personnage d'Hergé. Nous venons de tracer les personnages principaux de la série, je crois qu'on a arrêté là pour les personnages principaux, il n'y en a pas d'autres. Alors on va essayer de tracer rapidement, parce qu'il ne reste plus qu'une demi-heure, les satellites qui gravitent autour de ces personnages. Hergé a créé un tas de personnages qui font son véritable monde de Tintin. Et j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur un personnage que j'aime particulièrement, c'est le type même de l'emmerdeur du casse-pied, Séraphin Lampion.
Oui, Hergé voulait d'abord baptiser Séraphin Crampon, ce qui, au fond, désignait peut-être mieux le personnage, mais avec moins de subtilité que Lampion.
C'est là où on voit d'ailleurs la finesse d'Hergé, c'est d'éviter le nom trop adéquat. Bon, par exemple, Tournesol, personnage lunaire à qui on donne un nom de fleur et un nom qui évoque le soleil, ou bien Lampion, qui a un nom à la limite bon, qui évoque la lumière, et qui par son comportement, ne se révèle pas précisément comme la lumière de la série. Ça, je crois que c'est le moment où on arrive à passer dans un comique supérieur, enfin, en évitant le gag le plus facile et en accédant à quelque chose qui devient drôle par contraste, enfin, ou par antithèse.
Alors, Séraphin Lampion, bon, évidemment, c'est le prototype du casse-pied, mais à côté, ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est le côté typiquement belge du personnage. C'est l'un des seuls personnages d'Hergé qu'on puisse vraiment identifier comme belge. Et Hergé même emploie plutôt le terme de belgicain, qui renforce encore ce côté vraiment, disons, de médiocrité viscérale, me semble-t-il.
Et alors, il y a un côté fascinant, je trouve, chez Lampion, c'est que c'est, on pourrait dire, le seul personnage véritablement familial, de par son comportement et de par sa structure. C'est le personnage qui vraiment renvoie à une certaine idée de la famille. On voit d'ailleurs la famille Lampion qui est à la hauteur, de monsieur. Et je crois que ça montre un côté très insidieusement subversif chez Hergé. Enfin, quelque chose aussi qui expliquerait des choses dans le rapport entre Joézette et Tintin. C'est qu'il y a en fait chez Hergé une espèce de hargne et de virulence contre l'idée familiale. C'est que la famille, cellule bourgeoise ou petite bourgeoise de base, suscite les sarcasmes permanents d'Hergé dès qu'il a l'occasion de la montrer. C'est-à-dire que la famille, c'est vraiment ces deux parents qui traînent cette ribambelle d'enfants insupportables, stupides, n'ayant à faire que des plaisanteries pénibles et sans
intention. Des Abdallah aux petits pieds.
C'est ça. Et en fait, c'est assez cocasse parce que c'est beaucoup plus violent qu'on ne pourrait le croire, puisque ce qu'il caricature avec Lampion et avec la famille Lampion, c'est quand même typiquement les lecteurs de l'époque. Enfin, globalement, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il démolit son public. Il se fout de la gueule du lecteur moyen, parce que c'est quand même, caricature en plus, la famille belge, années 50, typique, qui part en camping, qui organise des rallyes.
Il y a quand même justement un trait distinctif de Lampion, c'est que c'est un personnage très actif, hein, qui prend des initiatives. Comme tu dis, il organise des rallyes, il est président d'une société folklorique, les Turlurons, bon, les Joyeux Turlurons. Donc c'est certainement quelqu'un qui est très actif, mais dans un certain contexte qu'on imagine très bien se présenter comme aux élections communales pour représenter
C'est le petit bourgeois dynamique qui effectivement est bien vu dans le quartier parce qu'il prévoit un bal, effectivement, il n'hésite pas même à emmener tout un groupe donc jusqu'en Amérique du Sud avec un autocar, etc. Bon, et là, il y a des choses. Enfin, je veux dire, dans Les Picaros, qui n'est peut-être pas le meilleur album d'Hergé, il y a des trouvailles comiques qui sont liées au personnage de Lampion et qui sont superbes. Enfin, qui vont jusqu'à l'utilisation d'un comique stupide qui réussit parce qu'on le place dans la bouche d'un personnage dont on sait tellement qu'il est stupide que ça devient drôle au deuxième degré. Comme par exemple, à la fin de Tintin et les Picaros, quand Lampion, qui s'est toujours méfié d'Alcazar, de tout ce qui était lié à ses Picaros, ça ne lui dit vraiment rien qui vaille. Et puis bon, finalement, il voit que les choses se passent plutôt bien et qu'il croit bon de crier « Vive Alcazar, c'est un lascar
!» Malabar.
C'est un malabar.
Je crois qu'il dit c'est un malabar. Ah.
C'est aussi bien ou c'est encore mieux le malabar. Eh bien, ça, je trouve, c'est le genre de trouvaille merveilleuse qu'on arrive à placer au moment où on a vraiment fait assimiler au lecteur la platitude du personnage. C'est tellement ça, c'est tellement la remarque stupide du type qui va jusqu'au bout du monde pour voir crier ça un jour et raconter après qu'il a vraiment sauvé le pays. Oui.
Il y a peut-être, on peut dire peut-être que les Dupont et Lampion appartiennent à une même famille quand même. Il me semble qu'il y a pas mal de points communs entre eux.
Oui, mais c'est une version modernisée. Parce que, comme Lampion le dit dès sa première entrée, à Mounassar, donc au début de l'affaire Tournesol, il voit l'intérieur et il dit « Moi, je préfère le moderne ». Et en fait, c'est un petit peu l'intrusion d'un comique néo par rapport au comique rétro que représenteraient les Dupont. Comme si Hergé, tout d'un coup, voulait pouvoir faire la satire d'un certain nombre de choses dont les Dupont ne lui permettaient pas de faire la satire. Parce que eux, finalement, bon, ce sont des personnages fossiles.
Oui, ce qui est commun aussi aux personnages, c'est qu'ils ne se sentent jamais déplacés, ils ne se sentent jamais importuns, au contraire. Et même quand on leur signifie de façon très claire, comme quand Haddock leur dit « la seule assurance qui me manque, c'est une assurance contre les casse-pieds », Lampion immédiatement renchérit en disant « eh bien c'est entendu, je vais vous en préparer une, je vous la porterai personnellement, on pourra passer encore quelques bons moments ensemble ». Donc il n'est absolument pas accessible à la critique, on ne peut pas lui faire sentir qu'il est important. C'est pour ça que le terme de crampon était vraiment particulièrement bien choisi. Il se cramponne envers et contre tout.
Avant d'arriver aux hommes de gang, comme les appelait Paul Vendrome, j'aimerais bien vous faire entendre une interview de Luc Beyer, une interview de Luc Honoré, journaliste au Soir, expliquant ce qui, pour eux, est le plus important dans les personnages qui ont été créés par Hergé.
Un des points forts, et je ne dis pas que c'est le seul, un des points forts me paraît être ce couple entre Tintin d'un côté et le capitaine Haddock de l'autre. Ça me paraît certainement un des piliers, ou un double pilier, sur lequel repose la voûte de l'œuvre d'Hergé. Tintin, le personnage finalement sans rides, le personnage sans ride, et je ne parle pas ici de son âge, je parle ici de sa morale, de sa pureté, de son intégrité, de son courage, de son audace, et d'un autre côté, le personnage d'Haddock, qui est un personnage beaucoup plus humain, finalement, avec tous les défauts, et parfois les vices, d'ailleurs, les vices de l'homme, et alors ce couple, finalement, réagit l'un sur l'autre, et je crois que ça, c'est une des constant, dirais-je, de la popularité de l'œuvre d'Hergé. En tout cas, c'est une des clés de voûte de cette œuvre et de son succès.
Que ce soit vraiment les personnages pris un à un qui sont importants chez Hergé. Je crois que c'est le monde d'Hergé qui est important. Comme il y a un monde de Magritte, comme il y a un monde du cinéaste André Delvaux, comme il y a un monde du peintre Paul Delvaux, c'est tout ce monde qui réagit à travers lui-même et qui a également des interférences avec notre monde à nous qui est important. Je ne crois pas que je choisirais un seul personnage, que tous les personnages d'Hergé m'ont toujours plu par les rapports qu'ils ont entre eux. Par exemple, le personnage de l'assureur, vous allez me dire son nom.
Séraphin Lampion.
C'est ça. Séraphin Lampion est un personnage merveilleux et qui fait tellement partie de ce monde. Pas un personnage, le monde d'Hergé. J'ai lu dans une de vos chroniques que vous aviez été frappé par le personnage de Yeti aussi dans Tintin au Tibet.
Oui, il est fabuleux, Yeti. Dans Tintin au Tibet, Hergé, c'était également, bon, ça faisait partie de cette quête de pureté, cette espèce de voyage initiatique qu'il a fait à travers cet album-là, a absolument voulu qu'aucun personnage ne soit mauvais. Et on peut le remarquer, le Yeti, en fait, est quelqu'un de très généreux, de très vrai. Je crois que le Yeti, c'est un peu Hergé, d'ailleurs, là-dedans. Qui a peut-être voulu dire, et Dieu sait, peut-être par rapport aux événements des années 40-45, que malgré les apparences, malgré ce qu'on pouvait croire des gens, malgré tout l'aspect extérieur, malgré tout ce qu'on donne à l'extérieur, on était peut-être tout différent à l'intérieur, et on pouvait être généreux malgré les masques qu'on avait pu mettre sur son visage à un moment donné.